Le REAP, qui signifie Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, a pour principal but de venir en aide aux parents en difficulté et surtout de les rendre indépendants par rapport aux difficultés rencontrées. Ils sont également entourés de professionnels qui œuvrent dans différentes structures afin de faciliter l'échange. Le comité de l'Argeois du REAP 62 a organisé récemment une après-midi de sensibilisation qui avait pour thème « Parentalité et éloignement, ce que l'on peut faire, qui peut m'aider ?». Entretien avec Anne-Françoise de Rex, l'une des organisatrices de ce temps fort.
Je suis psychologue à l'association Colline ACEP, qui est une association régionale qui s'occupe de petite enfance et de parentalité.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce que signifie exactement le REAP, ou plus communément appelé réseau d'appui à la parentalité ?
Alors REAP, c'est un dispositif d'État qui veut dire réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, qui a été créé à peu près en l'an 2000, en fin 99, dans l'objectif d'aider les parents à prendre part complètement à l'éducation de leur enfant et de ne pas être dépossédés de leur fonction parentale par les professionnels. Donc en fait, on cherche à faire émerger des initiatives parentales à l'aide de professionnels.
Qui sont justement ces professionnels ?
Alors, donc il y a les professionnels et travailleurs sociaux, qui peuvent venir soit des collectivités territoriales, donc du Conseil Général, aussi bien de la PMI que des services sociaux classiques. Il y a les professionnels de l'éducation nationale, les assistantes sociales de l'éducation nationale, les CPE, les professionnels des mairies, il y a les professionnels de centres sociaux, de maisons de quartier, les professionnels des crèches. Les coordinateurs parentalité des villes, diverses associations qui ont travaillé avec les familles. Donc, par exemple, le CDIFF qui était présent à cette manifestation, les centres sociaux qui travaillent beaucoup pour la promotion des habitants, pour que les habitants soient acteurs et qui forcément ont une grande part dans toutes ces actions.
Il y a également une charte qui a été signée communément donc par l'État, l'éducation nationale, les réseaux sociaux, la CAF également, et les collectivités locales. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette charte ?
Elle fait pendant à la charte nationale des REAP, qui a été signée au moment de la fondation de la création du dispositif. Et elle vise à faciliter pour les parents le fait de pouvoir demander des financements pour des actions. Parce que d'habitude, les financements qui sont obtenus par la politique ville, par les différents financements d'État, des collectivités, etc., c'est assez complexe. Et c'est presque toujours les professionnels qui le font, avec un cahier des charges extrêmement serré, précis, tant au niveau date qu'au niveau de l'évaluation demandée, des critères, etc. Donc là, elle vise à dire, là, c'est un projet REAP qui se veut être un projet que les parents peuvent mener eux-mêmes. Et donc, puisque c'est un projet REAP, facilitez-nous l'administration. Et donc, elle a 8 axes donnent des priorités pour ces projets. Donc, si les projets sont bien axés dans la coéducation, s'ils sont bien axés dans le territoire, bien ancrés dans le territoire, on demande aux financeurs de prendre en compte le fait que ce sont des parents, que ce sont des essais, qu'il peut y avoir des erreurs et qu'il y a des améliorations à apporter. Et donc cette charte, elle vise à faciliter des projets très qui viennent vraiment de la base.
Il y a également plutôt une section locale, comme ici dans l'Argeois, le thème est plutôt l'éloignement de l'enfant et la parentalité. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'éloignement ? Ça concerne aussi bien l'éloignement par l'école, mais aussi peut-être d'autres choses ?
On avait envisagé surtout les parents qui ne vivent pas au quotidien avec leur enfant, soit parce qu'ils sont des parents séparés et que l'enfant vit chez le père ou chez la mère et que l'autre du couple parental habite loin, ou bien alors n'arrive pas à se mettre d'accord pour la visite des enfants, ou bien des parents qui ont eu des difficultés de vie, soit que leurs enfants soient placés momentanément ou en famille d'accueil par exemple, ou bien des parents qui sont en détention, enfin voilà, toutes les situations où les parents ne vivent pas au quotidien avec leur enfant. Et il faut savoir que on reste parent quoi qu'il arrive, même si on n'exerce pas toute sa fonction parentale, parce qu'on en est empêché, parce qu'on ne le peut pas, pour des tas de raisons, mais il reste quelque chose de la parentalité. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Par exemple, si vous ne vivez pas avec votre enfant au quotidien, mais votre enfant va à l'école, vous avez tout à fait le droit de recevoir les bulletins scolaires et d'être invité aux réunions d'école, aux réunions des clubs sportifs, aux fêtes. Et donc même, c'est un grand intérêt pour l'enfant que de voir que son parent qui ne vit pas au quotidien s'intéresse vraiment à ce qu'il fait. Et c'est un petit peu ça, les situations d'éloignement. Elles peuvent être dramatiques, mais elles peuvent être aussi très quotidiennes, puisque beaucoup d'enfants ne vivent pas avec leurs deux parents.
Est-ce qu'il vous arrive aussi, en parlant d'affaires un peu délicates, de vous occuper d'affaires d'enfants qui seraient éventuellement emmenés à l'étranger par l'un des parents et qui finalement ne pourraient pas, par souci d'éloignement, là c'est le cas de le dire, pouvoir voir le deuxième parent ?
Ce n'est pas tout à fait notre champ. Lorsque ceci se passe, il y a des associations qui s'en occupent. Je pense que le CIDIFF qui travaille avec nous au sein des REAP, effectivement s'en occupe. Mais les réseaux d'appui, c'est surtout un espace de réflexion entre professionnels et parents pour essayer de mettre en œuvre des pratiques qui ne soient pas entièrement maîtrisées par le professionnel, mais où on écoute vraiment le parent dans ses besoins, dans ses capacités, dans ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être parent. Vous voyez, les réseaux d'appui rassemblent beaucoup de sortes d'associations différentes, avec des missions différentes, mais ils travaillent ensemble à essayer de ne pas déposséder, je le dis tout à l'heure, mais à ne pas déposséder le parent de l'éducation de son enfant.
J'ai également rencontré quelques professionnels et notamment deux membres d'associations qui s'occupent d'insertion par le logement et de gérer les relations entre enfants et parents détenus.
Moi, je suis Christelle Lecoq, je suis assistante sociale au service Habitat de l'association Relais Jeunes Artois à Arras.
Cette association s'appelle plus communément l'ARJA, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Quel est votre rôle et qu'est-ce que vous faites exactement comme action ?
Alors, l'ARJA, c'est une grosse association qui regroupe plusieurs pôles. Un pôle d'aide sociale à l'enfance avec des foyers d'accueil de jeunes mineurs placés et puis un service d'accompagnement de jeunes majeurs. On a également un pôle, ce qu'on appelle étranger, qui regroupe le CADA d'Arras, donc le centre d'accueil demandeurs d'asile, et le service d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. L'ARJA est également coordinatrice de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile sur le département du Pas-de-Calais. Et en ce qui me concerne, donc, je travaille au service Habitat qui accueille des personnes majeures dans le cadre d'une rupture d'hébergement pour diverses raisons, expulsion, sortie d'incarcération, personnes sans domicile fixe, décohabitation, séparation, etc., etc. Donc nous, on accueille des personnes majeures sur des dispositifs d'hébergement avec la particularité qu'on n'accueille pas sur du foyer collectif, on accueille uniquement sur du logement diffus et sur orientation d'un travailleur social. On utilise le logement comme outil d'insertion sociale et professionnelle, mais évidemment ce sont des gens qui, s'ils se retrouvent sans logement, le toit c'est quand même le besoin primaire par excellence. Et donc on accompagne ces personnes dans leur parcours d'insertion, de réinsertion via l'outil qu'est le logement. Donc une action qui est relativement forcément globale, puisque qui dit logement dit famille. Sous un toit, il y a un papa, une maman, des enfants, ou, enfin en tout cas une cellule familiale, qu'elle soit monoparentale ou pas. Et donc on accompagne les familles dans tout leur parcours d'insertion. Ça peut être de la parentalité, ça peut être du parcours professionnel, ça peut être de l'aide, de l'accompagnement budgétaire. Enfin, c'est extrêmement varié.
Vous êtes
Ariane Baudelot, je suis éducatrice spécialisée. J'interviens dans le cadre du relais enfants-parents, qui est une action de soutien à la parentalité et qui dépend donc de l'association après. Nous intervenons au centre de détention de Bapaume et à la maison d'arrêt d'Arras pour le territoire du Pas-de-Calais. L'objectif, c'est de pouvoir aider au maintien des liens entre les enfants qui ont moins de 18 ans et leurs parents incarcérés dans les situations de conflit ou de blocage.
Quel genre d'action vous effectuez concrètement pour faire le relais ?
Alors l'accompagnement en fait auprès de ces familles se traduit par des entretiens individuels avec les parents incarcérés, des visites au domicile des personnes qui ont en charge l'enfant, tout un travail de mise en réseau avec les partenaires qui peuvent intervenir auprès de la famille, que ce soit au niveau des services du conseil général avec des TISF par exemple, ou une mesure d'action éducative en milieu ouvert. Ça peut être aussi prendre contact avec des magistrats selon les situations, donc juge d'instruction, juge des enfants, juge aux affaires familiales. Donc voilà, enfin, toutes les structures qui sont susceptibles d'intervenir dans la situation et dont nous avons connaissance. Globalement, je dirais à plus de la moitié des demandes qui nous parviennent aboutissent à pouvoir effectivement se concrétiser par la mise en place de visites entre les enfants et leurs parents. Donc le principe que nous adoptons est celui de la médiation. Récemment, par exemple, à la maison d'arrêt d'Arras, un papa nous sollicite. Il est incarcéré et il est séparé de sa compagne avant même déjà l'incarcération. Et cette ex-compagne, ne souhaite pas venir accompagner la petite fille, donc voir son père, pour diverses raisons. Monsieur donc nous sollicite. Nous l'avons rencontré, nous avons pris contact avec la maman, nous l'avons rencontré à son domicile, rencontré cette jeune enfant. Nous l'avons préparé et nous avons pu mettre en place donc des parloirs médiatisés à raison d'une fois par mois.
Beaucoup de parents se trouvent en situation difficile face à des structures juridiques souvent complexes qui demandent éclaircissement et une certaine médiation. Des professionnels chargés de défendre les droits et qui avaient jadis la qualification de médiateurs de la République interviennent alors pour leur venir en aide. Alain Ramcourt est l'un d'entre eux. Il nous donne quelques explications sur ce rôle un peu flou.
Vous êtes délégué défendeur de droit. Alors expliquez-moi un peu votre rôle. Vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juge. Est-ce que vous êtes plutôt conseiller ?
Le défenseur des droits donc, est chargé de 4 missions essentielles. Une mission de médiation dans le cadre des services publics. Nous gérons également le droit de l'enfant, nous gérons également tout ce qui concerne la discrimination, la déontologie et la sécurité. Nous ne sommes pas effectivement des juges ou des avocats, ça c'est clair. Par contre, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions amiables et voir si on peut apporter, des informations également sur les questionnements auxquels on a droit.
Quelles affaires vous traitez le plus souvent ?
Personnellement, je traite beaucoup plus des missions de médiation avec les services publics, puisqu'il y a dans le département du Pas-de-Calais, il y a 2 personnes qui sont issues anciennement de la HALDE, dont une qui est au point d'accès au droit de Saint-Nicolas et qui traite, elle, plus précisément, les problèmes de discrimination. Sinon, nous sommes chargés de gérer les 4 fonctions. Mais moi, je fais beaucoup plus, certainement, dans tout ce que j'ai, je fais beaucoup plus de missions de médiation avec les services publics.
Quand vous intervenez, est-ce que c'est plutôt les gens qui viennent vous voir essentiellement pour essayer d'avoir des informations, ou est-ce que vous êtes contacté plutôt par des services sociaux ?
Ce sont des particuliers qui viennent, les permanences sont affichées, les permanences dans les journaux locaux, Arajois, le journal de la commune, le journal de la communauté de communes, donc les gens viennent nous voir en permanence, et non, ce sont des particuliers qui viennent nous voir. Rarement des associations, mais ça peut arriver.
Alors vous traitez le droit d'enfant, est-ce qu'il y a aussi des exemples justement, est-ce que vous vous occupez par exemple de pupilles de la nation qui seraient sous tutorat ?
Honnêtement non, pas du tout non. Il faut savoir que le défenseur des droits est une institution qui est quand même récente, donc on n'a pas véritablement, enfin moi personnellement je n'ai pas véritablement un regard sur par exemple la défense du droit de l'enfant, comme vous me disiez tout à l'heure, on est trop jeune en la matière quoi. On est trop jeune à la matière pour avoir. Personnellement, j'en ai jamais eu. Ni pupille de la nation, j'en ai jamais eu, non.
Si vous désirez plus d'infos sur les différentes actions réalisées par le comité arajois du REAP 62, rendez-vous sur le www.parents62.org.